fou, où ça va nous aller à la loupe.
Enfin, Spectaculaire commence, mercredi 13 novembre 2024, émission 344, 14h06, un petit peu de retard. Et pourquoi dis-je enfin ? Le générique un peu tardé à démarrer, c'est parce que oui, Christophe Rolin, je suis au micro, mais Francis is back. Finally, endlich, enfin, la chronique numéro 14 pour avoir lieu. Non, c'est la 32 ou 33, il est en train de faire nom de la tête. Oui, mais c'est quand même pas beaucoup de chroniques, hein. En 9 ans, ça fait pas tant que ça. Et nous avons un invité, nous sommes ravis, nous avons Philippe Cordier. Pour l'exposition, en la présence de l'artiste lui-même, de Klaus Jensen, 50 ans de comics, à la Galerie 41 rue Saint-Georges, c'est du vendredi 22 novembre jusqu'au dimanche 24, vernissage vendredi 22 à 19h. Notre invité, comme tous les invités, va faire un petit portrait de lui. Vous allez voir, ça va être très, très rapide. Non, ça peut être long, mais il y a tellement de choses à dire. Et il nous dira aussi tout ce que nous pourrions souhaiter savoir sur cette exposition à venir et sur Klaus Jensen lui-même, un immense encreur américain. Je n'ai peut-être pas présenté ce Klaus Jensen, qui a notamment travaillé sur le Dark Knight de Frank Miller ou sur beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est années 80, certes, mais ça, il appartient, peut-on le dire, à l'histoire des comics. Et Philippe Cordier le connaît personnellement, il connaît tout le monde, hein. John Byrne, je crois, Stan Lee, John Romita, on va évoquer J.R., John Romita, Senior aussi. Nous allons évoquer tout ça et on va commencer en musique, on va commencer avec Comic Strip, non pas la version de Serge Gainsbourg, mais celle de Sylvie Kreusch, qui se trouve sur la compilation des Inrecuptibles, novembre 2024, extraite de l'album Comic Strip, c'est l'album Comic d'ailleurs Trip. Non, il n'y a pas de Strip, hein. Je mets le S entre eux, c'est Comic Trip. Bon, petit pétation intéressant, on la voit déguisée avec un chapeau de cow-boy. Bref, vous nous écoutez, vous faites très bien sur radiocanu.org. Et si c'est sur internet, très bonne chose. Et si c'est à Lyon, excellente aussi. C'est sur le 102.2 de la bande FM. Et voilà, ça se termine de manière assez abrupte, ce titre de Sylvie Kreusch, Comic Trip. Il n'y a pas le S, c'est un peu un hommage, hein, j'ai l'impression tout de même à Serge Gainsbourg avec des sortes de « waouh » qui sont prononcées. Bonjour Francis.
Salut Christophe.
Bonjour Phil, c'est Phil plutôt que Philippe, c'est ça
dans le... Qu'importe, bonjour, quoi qu'il en soit.
Ce titre n'est pas de votre... ce n'était pas sur votre suggestion, on écoutera vos titres ensuite, on écoutera les Beatles, promis juré, le titre je l'ai bien préparé. Mais c'est un titre qui introduisait un peu cette émission, qui va porter sur un événement qui se produit, auditeur-auditrice, la fin de semaine prochaine, du vendredi 22 novembre jusqu'au dimanche 24, c'est le 5e arrondissement, c'est ça je crois, hein, c'est sous Saint-Jean, la rue Saint-Georges, le 41 de la rue Saint-Georges, dans cette galerie qui porte le nom de Galerie 41, aura lieu l'exposition Klaus Johnson, 50 ans de comics, une véritable légende vivante de la bande dessinée américaine en visite à Lyon, 50 ans de carrière chez DC et Marvel Comics. S'il est connu d'un maximum de lecteurs pour son travail avec Frank Miller sur Daredevil, ainsi que Batman, le fameux Dark Knight Returns, son nom est associé à tous les super-héros, encreurs, coloristes, dessinateurs admirés par ses pairs. Son travail sera pour la première fois exposé à Lyon du 22 au 24 novembre 2024, centaine d'originaux admirés en présence de l'auteur qui vient à l'occasion spécialement de New York. Donc voilà, c'est un événement unique. Je ne vais pas lire tout ce qui est indiqué sur cette belle petite carte que je vais d'ailleurs, j'en ai pris plusieurs que je laisserai dans les studios de Radio Canut. Donc vous venez nous parler de cet événement. Mais dans un premier temps, Francis, tu te rappelles la règle, hein, bien que nous ne soyons pas venus depuis quoi, mai 2021.
Je sens que pendant une heure, je vais m'en prendre plein la tête.
Non, je suis tellement heureux de ce retour. Chronique combien en fin d'émission, Francis?
41 et non pas 14.
Ah, je pensais que c'était la 39. Je pensais
Quelle
que c'était.
Mauvaise langue.
T'as passé 41. Bon, très bien. Auditeur du Triste, tenez-vous prêt, ce sera en fin d'émission, mais le début d'émission, c'est sur notre invité, donc Phil Cordier. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur d'ailleurs le Phil Cordier Blogspot qui existe sur Internet? Une mine. J'ai passé des heures dessus. Comment vous présentez vous-même? Peut-être pas votre vie professionnelle typique, mais votre vie, votre autre vie, ce que vous faites avec les encreurs américains.
On va peut-être faire un petit peu vite parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Klaus Johnson que c'est dommage de passer du temps sur moi, mais si c'est la tradition, l'idée en deux mots, c'est assez simple. Je grenouille dans le domaine de la BD depuis peut-être 30 ans. Donc l'organisation, co-organisation de festivals, d'événements, des conférences, des revues, le magazine Zoo sur la bande dessinée, le magazine Scarce, donc un prosine qui est depuis plus de 30 ans un spécialiste du comics. Bref, pas mal de choses dans le domaine, et depuis une dizaine d'années, j'interviens avec les éditions Black and White.
Voilà. Il faut peut-être indiquer comment la chose se fait, parce que comment dire, géographiquement, à Lyon, baigné dans la bande dessinée, on est un petit peu aidé.
Il y a une logique, surtout si on parle de bande dessinée américaine, puisque c'est quand même là où sont nées les éditions Lug. Tous ceux qui ont lu des Strange, Spécial Strange, attention, on ne dit pas Strange, on dit Strange. Spécial Strange, Speedy et autres, c'est
Nova
Lyon,
aussi.
C'est Lyon,
Nova.
Tout ça, c'est Lyon.
Et oui, parce que Lug.
Lug, c'est Lug d'un homme, forcément, donc c'est Lyon. Avec deux auteurs phares qui sont Jean-Yves Mitton et Ciro Tota, qui sont des locaux.
Moi, j'avais même connu Cyrus Tota. Hein,
Fallu américaniser. C'était John Miller. Hilton et Cyrus Tota, donc ça fait quelques années qu'ils ont repris leur vrai nom.
Et puis après, ça devient Semic, hein, c'est ça, les éditions
ouais,
Lug.
C'est ça.
Avec 80-90.
Oui, ça a été racheté par Semic. Donc voilà, c'est vrai que c'est très lyonnais tout ça. On baigne dans le milieu lyonnais.
Et êtes-vous natif de
Lyon? Moi, je suis de Lyon. Je suis de Bron. Voilà, c'est à peu près pareil. Hein.
C'est pas Lyon.
On retient, Francis, on l'accepte quand même, on le garde.
Bron, puis Villeurbanais, et maintenant je suis dans l'Ain.
0-1, c'est pas vrai, non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Donc vous grenouillez dans ce milieu-là,
et j'ai un petit peu focalisé depuis 10 ans sur les éditions Black and White, parce que c'est un petit éditeur qui fait et du tirage de luxe, et qui veut aussi faire un petit peu comics, et qui édite par exemple l'intégrale de Photonique de Cyrus Tota.
Le personnage.
Donc pas mal de choses qui m'intéressent et qui m'ont donné l'occasion de bosser avec Raphaël Vaquer, qui est donc le patron des éditions Black and White. Et c'est avec ces éditions-là qu'on organise cet événement mondial.
Parce qu'en fait,
c'est Klaus Johnson.
Mais ça vient d'où ça, cette envie des comics? C'est parce que jeune, vous lisiez, vous étiez déjà intéressé par ça, j'imagine.
Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
C'était ça ma question.
Tout petit et à Lyon d'ailleurs. C'était, alors là, on remonte à une époque tellement ancienne, Mattel avait fait un train qui présentait les jouets qui allaient devenir les jouets des guerres secrètes.
Secret Wars.
Ouais. Les guerres secrètes.
Mike Zeck.
Transpidé par Mike Zeck. Et c'est à cette occasion-là que quelqu'un de chez Lug distribuait très intelligemment un spécial Strange à tous les gamins qui descendaient du train.
Ah, ils sont forts.
Et ben, ça a marché.
Bah oui, forcément.
C'est mieux que les clubs quand même.
En tout cas, sur moi, ça a très bien marché.
Il y a un épisode qui est dessiné par Bob Layton, je crois.
Plusieurs.
10 ou 11.
Oh, au moins 3.
3 ?
Ouais.
Punaise.
Ouais. Je sais, je regrettais à chaque fois que c'était lui.
Bah pareil. Bon, bah, on a le même âge. Hein. Auditrice, vous l'aurez donc compris.
On a le même âge, mais moi, j'ai pas cette culture-là. D'ailleurs, je voulais juste dire aux auditeurs, aux auditrices, depuis 20 minutes, ils parlent, je ne comprends absolument rien de ce qu'ils racontent.
Et bien, c'est
tombé
très bien
dedans.
Ça. Donc, nous parlons des bandes dessinées, les comics américains. Stan Lee, décédé en 2018, c'est ça ? Et plus ou moins dans les années 60, fondateur. Quoique, c'est un deuxième temps, puisqu'on pourrait même faire une chronologie.
Oh là là, mais on peut faire plusieurs émissions.
L'âge de fer, l'âge de bronze. Les comics, années quoi ? Années 40, on peut dire ? Personnage de Superman, 38,
fin des années 30, c'est ça.
Là, avec Joe Siegel et Joe Shuster.
Joe Siegel et Joe Shuster. Ouais.
Donc, le personnage lui, de Batman arrive très peu de temps
après,
39, 40.
Ouais.
Et puis, c'est DC Comics.
C'est l'engrenage.
Qui n'est pas encore la DC Comics.
C'est l'engrenage.
Ce n'est pas encore le nom DC. Et pour Marvel, c'est un peu plus tard. C'est davantage. Il y a Timely Comics. Et puis, dans les années 60, c'est quoi la grande année ? C'est 61. Stan Lee en mars, avril, mai, juin.
L'explosion, c'est
les Vengeurs, Hulk et les X-Men.
Ouais, c'est ça. Après, il y a tous les personnages qui en découlent. C'est ça.
Exactement,
dont vous parlez, quoi.
Ce que les gens connaissent aujourd'hui par
Spider-Man et tout ça, quoi. C'est de ça dont on parle.
Exactement. Okay. Et c'est aussi ça dont on va parler avec l'événement de la semaine prochaine, puisqu'on a quand même. Je suis bon en transition.
Oui, mais j'aurais bien aimé rester une seconde sur justement le dessin.
Quand même que vous appréciez ma façon d'essayer de vulgariser
auprès
des auditeurs.
Exactement.
Et des auditrices.
C'est important.
Exactement.
Voilà. Parce qu'il faut quand même le dire, hein, Philippe, c'est que la bande dessinée américaine n'est pas la bande dessinée franco-belge à la fois en termes d'esthétique, mais aussi en termes de publication. C'est les personnages n'appartiennent pas à leur créateur.
Exactement. Ce sont les maisons d'édition qui possèdent les personnages.
Et pourquoi dire ça ? C'est parce qu'il y a des milliards d'épisodes. Alors que Tintin, il y en a quoi ? 21, 22 tomes ?
C'est pas quelque chose qu'on connaît bien dans le franco-belge, parce qu'on a l'habitude d'avoir une série liée à un créateur sur une durée, même si les choses changent, évidemment.
Ah, Spirou a un peu changé la chose.
Ouais. Oui, il y a quelques personnages qui ont changé un petit peu la donne, mais c'est plutôt à la mort du créateur ou du dessinateur qu'on se pose la question de qui va reprendre. Pour les comics, il n'y a pas du tout de question qui se pose. Les gens sont là pour un petit moment, ils sont embauchés, ils font quelques mois, quelques années, et on passe à une autre équipe de scénaristes, dessinateurs, et on passe à d'autres. C'est vraiment des équipes qui tournent. En fait.
Donc le grand créateur de chacun des personnages, en fait, il bosse pendant 10 ans et puis après...
Il y en a même qui ont bossé moins, il y en a même qui ont même quasiment pas bossé dessus.
Ouais.
Si on peut faire un peu la mauvaise langue, c'est important. Le créateur de Batman n'a quasiment pas fait de Batman.
C'est terrible.
Bob Kane.
Il avait uniquement des assistants qui signaient du nom de Bob Kane.
D'accord.
Et d'où l'idée qu'on fête pas tant les anniversaires, on fête plutôt les numéros d'épisodes. Épisode 600, 700, 800, épisode 1000. On pourrait pas arriver ça dans la bande dessinée. Et donc, si Francis, c'est quand même important, arrivons au dessin. Parce que vous êtes plus quand même orienté dessin que scénario. Enfin, bien entendu, après, on va pas se lancer dans qu'est-ce qui prime, l'histoire ou les dessins. Mais vous êtes davantage dans le côté dessin. Et puisque, voilà, la transition est faite aussi, vous allez recevoir Klaus Janssen, qui est, lui, davantage encreur que dessinateur.
J'ai toujours aimé étudier un petit peu comment se fait le dessin dans les bandes dessinées. Qui fait quoi, comment. Et dans les comics, c'est parfait parce qu'il y a des dessinateurs et il y a des encreurs. Parfois, c'est la même personne, mais ça va régulièrement être deux personnes différentes. Et j'ai toujours aimé décortiquer le truc, en fait. Pourquoi tel dessinateur, quand il est associé à tel encreur, ça donne autre chose. Moi, je trouve ça passionnant et ça fait 20 ans que c'est un truc qui me passionne. Donc, j'étudie un petit peu le truc et on se retrouve à connaître des dessinateurs et des encreurs.
Et vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que la différence entre un dessinateur et un encreur.
Il faudrait, auditeur, auditrice, il faudrait une image de télévision, il faudrait une caméra de télévision. Là, il y a un épisode de Jack Kirby, c'est le Galactique
en crayonné,
c'est-à-dire les crayonnés, c'est ce qu'a fait Jack Kirby lui-même.
Le crayonné, comme son nom l'indique, c'est du crayon. C'est un dessinateur qui va uniquement faire le dessin au crayon. L'encreur, lui, c'est l'encre de Chine. Il va passer à la plume ou au pinceau, il va repasser sur le crayonné.
Et c'est nécessaire.
À la base, c'est purement technique. Il y a plusieurs décennies, c'était technique. C'est parce qu'un crayonné ne pouvait pas être publié, imprimé avec les conditions de l'époque. Donc il y avait besoin de le mettre à l'encre. C'est vite devenu uniquement une industrie pour aller plus vite. Puisque si vous payez quelqu'un pour dessiner et que pendant ce temps, un autre est en train d'ancrer les premières planches, forcément, on gagne du temps. Et comme c'est un business autant qu'un art, ça permet d'aller plus vite.
Sauf qu'à la base, dit comme ça, on n'a pas l'impression, on n'a pas la sensation que ce soit un art,
non,
juste ancreur.
Non, parce que c'est,
ça, l'est devenu.
Ça fait plus business puisqu'on permet d'aller plus vite.
Mais ça l'est devenu, j'imagine.
Ça l'est devenu.
Si, voilà, si ouais, vous en parlez, ouais, si vous êtes passionné, c'est que j'imagine qu'il y a un intérêt artistique derrière.
Ça l'est devenu. Ça l'est un peu moins aujourd'hui pour plein de raisons. Il y a un petit peu moins d'encreurs tels qu'on les entendait dans les années 60, 70. Mais là, sur la période qui va nous intéresser, années 80, 90, oui, il y a un vrai intérêt à être encreur.
Mais pourquoi? Alors, ça veut dire, ils changent des traits, ils mettent de la couleur, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça modifie un peu les dessins de...
Ça peut modifier considérablement, puisque selon l'approche, le style d'ancrage, on va avoir des personnes qui vont travailler plus avec du pinceau, plus avec de la plume. Sur un crayonné, c'est quand même ça l'origine, hein, sur un crayonné plus ou moins précis. S'il est extrêmement précis, on risque d'avoir un ancrage plus fidèle. S'il est beaucoup moins précis, on va avoir une grosse latitude qui est laissée à l'encreur.
Et couleur aussi, du coup?
La couleur, c'est quelqu'un d'autre.
Oh là là.
Sauf pour le cas de Klaus Johnson, qui lui faisait quasiment tout.
Il a dessiné vraiment le dernier épisode là qui est sorti
beaucoup,
de la
beaucoup.
C'est une sorte d'hommage, c'est ça, à Tim Sale un petit peu,
enfin,
c'est disons
ça.
C'est une reprise de Long Halloween de Batman.
Tout à fait.
Les épisodes sont réalisés chacun par un dessinateur différent, alors que le scénario reste par c'est Jeff Loeb qui
ouais,
s'y colle toujours. Et il fait l'épisode 2, 3 je crois.
Il a fait l'épisode 2, ouais.
Et donc là il fait tout.
Il fait le dessin et l'ancrage.
Ah, mais la couleur?
Pas la couleur.
Lynn Varley, non? C'est Matt Hollingsworth? Non, il est sur quelqu'un d'autre.
Je crois que sans vouloir dire,
oh,
parce que c'est Dave Stewart.
Glynis Oliver? Non, là, Glynis Oliver, là, c'est une autre.
C'est une autre génération.
C'est une autre génération, une autre époque. Je pense qu'on n'a pas du tout dit, mais peut-être qu'il est temps d'écouter ce titre, For No One, des Beatles. Comme ça nous permettra de davantage rentrer sur cette exposition elle-même, et puis peut-être des précisions encore sur cet art de l'ancrage. Et puis, qu'a réalisé Klaus Johnson lui-même? Là, on a parlé de ce Dark Knight Returns, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On a parlé de Daredevil. Quel était le scénariste? N'était-ce pas le même pour les deux œuvres? Écoutons donc ce titre des Beatles. Il y a une petite dédicace à faire, peut-être?
Ah, oui,
ça,
bien ouais, sûr, puisque c'est la plus petite de mes filles, une passionnée de McCartney, et qui va adorer entendre les Beatles.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. Should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when she said we'll fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Nous reprenons. Mais Phil, il faut une précision. après ce titre que nous écoutions.
Faut quand même que je dise que c'est un titre pour Noémie quand même.
C'était un titre des Beatles que notre invité nous a suggéré. Notre invité est là pour nous parler de cette exposition à venir dans, on est le 13 aujourd'hui, c'est à venir dans moins de 10 jours, le vendredi 22 novembre. Se tiendra jusqu'au dimanche 24 à la galerie 41, au 41 rue Saint-Georges, dans le Vieux Lyon, enfin du moins c'est sous Saint-Jean. Klaus Johnson, 50 ans de comics. Phil Cordier est organisateur un petit peu de l'événement, c'est ça ? Et il faut nous indiquer que l'artiste sera là du début jusqu'à la fin, du vendredi jusqu'au dimanche. Et cet artiste, Francis, tu n'as pas tort, il faut en parler davantage. Qui est ce Klaus Johnson ? Qu'a-t-il fait dans les comics ? Est-ce que c'est une contribution mineure qu'il a apportée ?
50 ans de carrière, ça va être difficile de le résumer en quelques minutes. Mais déjà, je rebondis, oui, c'est super important de préciser qu'il est là tout le temps, puisqu'en fait, c'est quand même un événement assez exceptionnel. Et donc, certains nous disent, mais vous l'avez fait venir pour le vernissage du vendredi 22. Non,
à 19h.
Pour tout week-end. Donc, il va être là le samedi, le dimanche, et il pourra commenter cette expo avec ses originaux.
Ça va manger de la quenelle, ça va manger de l'andouillette.
Alors, on va essayer, parce que c'est pas trop son trip, mais on va essayer de le convertir.
Alors, des trips.
On va essayer de le convertir à ça. Ouais.
Il y a le Beaujolais qui va arriver, c'est parfait.
Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui vient très, très peu en France, puisque la dernière fois qu'il est venu, on l'avait fait venir aussi nous, et c'était il y a 22 ans. Donc, il vient peu. Et c'est vraiment une occasion exceptionnelle de l'avoir. Alors, plus qu'au vernissage, même si ça va être sympa. Le week-end entier, il va être dispo pour échanger, discuter, parler de ses planches, quoi. Vous allez faire le tour de la galerie avec des planches originales, avec l'auteur, quoi, qui va pouvoir en discuter. Ça va être plutôt cool.
Alors, les planches originales, ce seront des dessins qu'il a réalisés ou plutôt des ancrages qu'il a fait ?
50-50. On est allé chez lui au mois de mars avec l'éditeur, avec Black and White.
On l'indiquait vraiment. C'était à New York, c'est ça.
C'est vraiment l'organisateur de cet événement, c'est vraiment les éditions Black and White. On est allé avec l'éditeur au mois de mars chez lui à Manhattan et on a entre autres fait une grosse interview qui va être dans le hors-série qu'on sort pile pour l'expo. Et on a récupéré des originaux. Et on a fait une sélection. C'était un peu compliqué, hein, parce qu'il a beaucoup, 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 beaucoup d'originaux. Donc on a sélectionné peut-être une quarantaine d'ancrages assez représentatifs de ce qu'il a fait sur 50 ans. Et au moins autant de dessins et d'ancrage qu'il a fait lui.
Alors, on disait tout à l'heure hors antenne qu'il y avait des planches qui étaient à vendre aussi.
Oui, ça va être à voir sur place. C'est quelqu'un qui ne vend quasiment pas ses originaux.
C'est bien pour ça que je disais ça, c'est que
donc
ça peut
on
avoir...
lui a dit, c'est l'occasion.
Exactement.
Voilà, c'est une occasion. Il a rarement d'occasion de ce genre. Donc il a dit, ok, on mettra des petites pastilles rouges sur quelques-unes des planches et on pourra discuter de la vente.
Les tarifs sont un peu variables, je suppose.
Oui, ça va probablement être extrêmement variable. Je dirais que les premières, ce sera sur de l'ancrage. On doit pouvoir tourner à 1000 et quelques. Par contre, sur du dessin, s'il les met bien en vente, il y a des couvertures du Dark Knight, des trucs qui peuvent pas partir en dessous de 10 000.
Ou dollars, on est sur...
Qu'importe à ces niveaux-là.
Alors on oublie de partir au resto, on garde des sous et on vient avec un gros chéquier.
Et on vient faire sa sélection.
Ouais, c'est ça.
Et alors il faut qu'on le dise, Francis, je te coupe parce que là tu as sous les yeux justement deux exemples. Voilà, Klaus Johnson, qu'a-t-il fait? Alors là, ce n'est hélas pas Daredevil et Dark Knight Returns, mais est-ce que vous pourriez, Phil, nous en dire un peu plus tout de même sur ce qu'il a fait dans les années 80, hein, c'est quand même un peu focalisé. Il a fait d'autres choses après, il avait certainement avant aussi sur le Moon Knight.
Sans aucune honte, je vais faire de la pub pour le magazine qui va sortir pour l'occasion, parce qu'il en parle beaucoup dans la longue interview qu'il nous a accordée. Mais en résumé, il s'est fait connaître comme encreur. Et il s'est fait connaître comme encreur d'à peu près tous les grands auteurs des années 80, surtout Frank Miller, sur Daredevil et sur le Batman Dark Knight Returns. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a marqué plusieurs générations, puisque ce sont des ouvrages qui se vendent encore aujourd'hui, hein, 40 ans plus tard. Et il avait, lui, des velléités de dessin. Et assez rapidement, il a demandé à pouvoir être aussi dessinateur. Et donc, il a pris la relève de Frank Miller sur Daredevil. Il a dessiné du Batman. Il a toujours eu en parallèle un travail d'encreur et un travail de dessinateur. Pendant des années, jusqu'à peut-être même pas 10 ans de maintenant. Il a vraiment alterné ça, en fait. Donc, il voulait avoir ces deux facettes-là. Donc, il a touché à tout.
Il est toujours en activité, là.
Il est toujours en activité, ouais. Ouais. C'est des grands noms des années 70-80. C'est probablement l'un des derniers, voire le dernier.
Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir des dédicaces un petit peu particulières, vous pouvez venir le week-end prochain.
Alors, ce ne sera pas des séances de dédicaces. Attention, non. C'est important. Il a fait quelques dessins de commandes déjà réalisés en amont, comme ils font beaucoup, les Américains. Par contre, normalement, il était prévu qu'il ne fasse que faire des signatures. Et ce qu'on a, et ce qu'il a proposé gentiment, c'est de dire un petit crowbar, une petite dédicace dans le magazine qu'on sort pour cette occasion, qui fait qu'il pourra faire un petit dessin, voilà, en souvenir pour les gens qui seront sur Lyon.
J'aimerais bien quand même qu'on le dise encore une fois, tout de même, c'est ce qu'il a pu faire dans ces années 80 avec le Dark Knight Returns et puis le Daredevil aussi. Il me semble que ça a été la matière des films qui sont sortis. Le Batman versus Superman, c'est une reprise de l'épisode 3, je crois, c'est ça, sur le combat entre Batman et Superman. Et puis j'étais en train de penser qu'il y a une série Daredevil qui va sortir, je crois, prochainement sur Disney+. Mais là, je me trompe, c'est peut-être davantage du Frank Miller, certes. Mais c'est sur David Mazzucchelli, c'est le Born Again. Mais il n'est pas encreur ici.
Non.
C'est Williamson
tout seul. Tout seul.
Il faisait tout.
Donc la nouvelle série, effectivement, c'est plus inspiré Miller Mazzucchelli. En revanche, ce qu'il a fait avec Frank Miller, Klaus, a quand même servi de base à la série qui est déjà sortie chez Netflix.
Et puis le personnage Elektra, qui a donné lieu à un film au cinéma aussi. Il le co-créait pas. C'est Frank Miller qui.
Non.
Qui était lu au dessin ainsi qu'au scénario.
Oui, sauf qu'avec le temps, Miller a de moins en moins poussé son dessin et il a de plus en plus laissé à son encreur la charge de terminer le dessin avant de l'ancrer.
Ouais, c'est un peu la subtilité dont on parlait tout à l'heure, où le dessin n'était pas forcément toujours précis et que l'encreur prenait de plus en plus de place.
Quand on nous demande ce que fait un encreur aujourd'hui, effectivement, sur un dessin qui est extrêmement précis, l'ancrage va ressembler quand même au crayonné. Mais quand on parle des années 80 avec des dessinateurs qui allaient très vite, qui produisaient beaucoup, ils poussaient un petit peu moins leurs dessins de manière à laisser un peu plus de place à l'encreur.
Serait-il temps d'écouter un autre titre que vous nous avez aimablement suggéré? J'ai dans l'ordre, hein, le Badge de The Cream, j'ai aussi Deep Purple, le titre Oh Well, One More Time aussi de Joe Jackson, et voilà, je crois que c'est ce que vous m'aviez transmis. Donne dans cet ordre? On écoute comme ça? Parce que auditeurs, auditrices, vous pensez qu'on en a beaucoup dit, mais non, détrompez-vous, il reste encore beaucoup d'informations à vous transmettre sur Klaus Jansson lui-même, sur cet événement qui a lieu 50 ans de comics à la Galerie 41, le 41 de la rue Saint-Georges. Vernissage vendredi 22 novembre à 19h par les éditions Black White avec notre invité aussi Phil Cordier. Non, on n'a pas tout dit, donc restez à l'écoute et vous en saurez encore un peu plus. pas de dédicace pour ce titre.
Non, Phil, c'est que pour moi.
Phil
c'est
Cordier,
là.
Badge de Cream, c'est ça? C'est sur.
C'est ça, exactement, avec Clapton.
Eh ben, très bien. Une programmation, vous disiez, on échangeait quelques messages, un peu années 80-90, c'est
à
ça
l'ancienne.
C'est à l'ancienne, oui.
Un peu avant même pour...
Vous êtes là pour nous parler, bien oui, forcément, hein, Klaus Johnson, on l'a calculé, né a priori en 1952, puisqu'il a 72 ans en 2024, et donc il vient fêter ses 50 ans de comics à la Galerie 41, rue Saint-Georges, galerie numéro 41 rue Saint-Georges, du vendredi 22 novembre jusqu'au dimanche 24. Il sera présent sur ces trois moments, sur le vernissage du vendredi, la journée de samedi ainsi que celle de dimanche. Il sera là et c'est quand même une légende et c'est dans un tour de force que vous avez tout de même réussi avec Black and White.
Oui, oui, parce que c'est quelqu'un qui est effectivement très très connu, qui sort relativement peu, mais qui quand même fait des petites apparitions sur des festivals essentiellement américains et qui là, bah, parce qu'on le connaît bien, s'est dit, bah, allez, c'est une occasion. Voilà, donc c'est un événement assez particulier d'avoir un Américain qui vient exposer pour la première fois. C'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. On se dit, le gars a 50 ans de carrière, c'est la première fois qu'il a une expo de ses originaux.
En France ou dans le monde?
C'est la première fois.
Dans le monde, d'accord.
Ouais.
Et alors, on parlait de votre métier d'éditeur tout à l'heure en antenne. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que vous
alors,
vous
c'est quoi? C'est pas mon vrai métier, hein, donc, mais j'interviens pas mal dedans. Black and White, c'est un petit éditeur de Strasbourg qui s'est créé il y a une dizaine d'années. Raphaël Wacker le gère depuis 10 ans et qui est quand même plutôt sur le marché du tirage de tête, tirage de luxe. Donc des bouquins plutôt chers, qui vont reproduire des planches originales, qui vont vraiment être du tirage spécial. Et ça fait pas mal de temps qu'il voulait se développer un peu différemment, faire un petit peu le marché du comics, ce qu'il fait avec, par exemple, Savage Dragon. Il voulait également faire un petit peu du photonique. Et là, c'est l'éditeur aujourd'hui de photonique.
C'est le personnage de Siro Tota, alors que Savage Dragon, le personnage d'Eric Larson,
exactement.
C'est américain.
Donc, il touche à différents... C'est un éditeur qui touche à différents domaines. Franco-belge, comics, tirage de
tête, ma question,
un
oui.
peu tout.
Franco-belge
beaucoup
aussi.
Franco-belge quand okay. même à la base. Et un petit peu de comics. On a quand même pu publier du Will Eisner et du Joe Kubert, qui sont deux gigantesques légendes américaines. Et là, aujourd'hui, Klaus Johnson.
Et vous parliez aussi que vous aviez d'autres projets d'édition de revues avec Black and White.
Le numéro va sortir, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est pas d'autres projets, c'est une continuité en fait. On a les éditions Black and White ont déjà sorti 3 numéros de Black and White Stories, qui est un magazine assez conséquent, puisqu'il dépasse les 120 pages, qui va être avec beaucoup de prépublications, beaucoup de previews, beaucoup d'inédits. C'est dans le magazine que vous avez la suite de Photonique de Siro Tota, et c'est le seul endroit pour l'instant où on pourra lire ses aventures. Et on continue ce magazine. Sauf que pour l'occasion de la venue de Klaus, on a un hors-série qui sort. Et qui vraiment, pour marquer le coup, va être 2 fois plus épais, puisqu'il fait 240 pages, et qui sort la semaine prochaine, et qui est 100% Klaus Johnson, avec des inédits, des interviews, des commentaires, des hommages, des dessins, des repros. On va retrouver toute l'expo. Entre autres, c'est une seule section du magazine, toute l'expo, et puis une trentaine de pages d'interviews de Klaus Johnson, donc celle qu'on est allé faire chez lui.
Et où est-ce qu'on peut le trouver? Partout, en librairie?
Alors, il va pas être dans toutes les librairies, puisque Black and White est un petit éditeur qui se gère seul et qui n'est pas diffusé, mais qui, par contre, a pas mal de libraires qui jouent le jeu et qui régulièrement lui en commandent. Donc, on va dire que si ce sont des librairies qui vendent du comics, il y a des fortes probabilités qu'ils commandent ce numéro-là.
Comic Zone, on peut l'évoquer peut-être?
Ah oui, Comic Zone, c'est une certitude.
Ah ouais, très bien.
Comic Zone, c'est un des fidèles.
Expérience peut-être aussi?
Expérience aussi.
Sur la place Bellecour.
Sur Lyon, ce sera probablement les deux principaux noms qui vont commander ce magazine et qui sera dispo, à mon avis, autour de début décembre, à peu près.
Je t'ai coupé, Francis.
Est-ce qu'on pourra le trouver lors de l'exposition, par exemple?
Bien sûr. Ah, c'est le but, c'est pour ça qu'on dort plus depuis quelques temps. C'est qu'il fallait absolument qu'il sorte pour l'exposition, et ce sera le cas. Puisqu'il va vraiment sortir des presses cette semaine-là, et qu'on l'aura pour l'exposition, de manière à ce que les gens qui seront présents puissent l'acheter sur place, et comme on disait tout à l'heure, avoir un petit dessin, une petite dédicace de Klaus Johnson dans les pages du magazine, en fait.
Ok. Juste une petite question par rapport à l'exposition. Vous attendez beaucoup de monde?
J'aimerais bien qu'on le sache, ça.
Vous redoutez pour le vernissage, peut-être? Vernissage,
je pense réellement que pour le vernissage, il va y avoir du monde, oui. Parce qu'on nous l'a déjà dit, on a pas mal de monde qui... Ils ont pris les billets pour venir, on a même des auteurs de BD qui ont pris leur billet juste pour faire l'aller-retour pour le vernissage. Par contre, pour le week-end, j'en ai aucune idée. On a déjà fait quand même des choses là-bas. On a fait quelques expos sur Lux, sur Sirotota. Ça fonctionne toujours correctement, mais là, on est quand même sur un cap un peu différent.
On peut réserver ses places, j'imagine. Enfin, je sais pas, Christophe, j'imagine que tu donneras les infos à la fin.
Il n'y a pas à réserver.
Il n'y a pas de réservation. C'est vraiment une galerie d'art à la base. Hein. Il faut juste venir. Et moi, j'aurais tendance à dire que ceux qui vont venir le dimanche sont à peu près sûrs de pouvoir discuter, échanger avec Klaus Johnson. Parce que quand même, historiquement, c'est un petit peu plus tranquille le dimanche que le samedi. Donc, petit conseil pour ceux qui voudraient échanger avec cet auteur-là, passez dimanche.
C'est à la fois, j'ai l'impression que c'est intéressant, Francis, hein. C'est quand même vraiment, Phil, vous le dites, une légende, hein. C'est, moi, je connais son nom depuis des années. D'autres gens ne le connaissent pas du tout. Donc, à la fois, c'est peut-être ce que vous ne savez pas pour cette exposition, c'est-à-dire que c'est quand même un immense nom. Donc, des gens viendront, c'est entendu, mais est-ce pour autant mainstream?
C'est pas la nouvelle génération, effectivement. C'est pas dans les comics le nom qui va venir plus facilement. Même si on a quand même quelques grands auteurs comme Sean Murphy, qui aujourd'hui réalise des Batman et qui vraiment est de la nouvelle génération, qui lui a demandé de participer à des épisodes. Donc, ça a permis de le faire connaître.
Zorro, hein, il a fait aussi. Hein.
Oui, Sean Murphy, oui, récemment. Mais là, c'était sur un Batman. Et Klaus Johnson a fait un épisode dans cette série-là, et ça a permis de le faire un petit peu connaître d'une nouvelle génération. En revanche, la génération qui a aujourd'hui 40-50 ans, c'est en plein le cœur de cible. Hein. Là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment le cœur de cible.
Il y a peut-être un mot qu'on n'a pas prononcé, et je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de le faire maintenant. Je me demande ce terme de manga. On a parlé de BD franco-belge, on parle des comics américains depuis ce début d'émission, mais je me demande si... comment dire, je ne sais même pas comment formuler une question. C'est, est-ce que on est dans les personnages qui appartiennent à leur auteur? Ce serait un peu le manga, et je crois dans ce système, Dragon Ball aussi, ça a été repris par Toyotaro, je crois, avec Akira Toriyama, nouveau scénario. Mais il y a un peu cette idée aussi dans cette industrie européenne, j'aurais l'impression. Mais il y a aussi une idée américaine de, ils travaillent à la chaîne, il y a des épisodes qui sortent, mais sans arrêt. Et en fait, je ne sais pas que vous demandez sur les mangas. Est-ce que c'est quand même voilà, on reste encore, c'est un grand nom, et lui, il a travaillé à la chaîne aussi, enfin, il a tout fait.
Il a beaucoup travaillé dans, je ne sais pas si on peut dire à la chaîne, mais effectivement, c'est le mensuel, en fait. C'est le mensuel, ce qui est pas au niveau des mangas, mais quand même costaud. Il a même eu une époque où il en faisait deux par mois, ça veut dire deux fois 22 pages, hein, donc c'est assez surréaliste en termes de production. Et c'est quelque chose dont il est sorti, d'ailleurs, volontairement. Parce que c'est quelque chose qui est usant. On peut pas travailler pendant 30 ans avec des deadlines qui sont mensuels. Comme ça, c'est pas possible. Ça use.
Ou alors, c'est ce qu'on fait Toriyama et puis ce que fait le créateur de One Piece. Je crois, on finit par mourir. Ou alors, on termine épuisé. Oui.
Des assistants. Beaucoup ont pris des assistants. Et lui, il insiste beaucoup sur le fait qu'il en a pas eu. Il a pas eu d'assistant, Klaus, quand il était et encreur et dessinateur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une usure aussi.
Mais c'est marrant, ça m'amène à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qui a avancé, est-ce que le métier d'encreur survit encore? Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il n'y a pas des techniques?
C'est une excellente question, puisque beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, effectivement, parce que déjà, on sait qu'il y a une crise énorme par rapport à la bande dessinée. Très peu vivent de leur métier. C'est vraiment un métier avec le parent pauvre, c'est l'auteur, ce qui est totalement fou, hein. C'est le dessinateur qui gagne le moins dans la chaîne du livre. Et on se retrouve aujourd'hui avec des dessinateurs qui ont besoin d'avoir financièrement la totalité du deal, c'est-à-dire le dessin et l'ancrage. On parle du comics là encore. Hein. Ça veut dire qu'ils vont travailler leur dessin et leur ancrage de manière à pas déléguer une partie de leur travail et donc une partie de leur rentrée d'argent. Donc ça joue beaucoup au niveau économique. Et puis le fait que au niveau technique, c'est plus facile d'ancrer aujourd'hui, par exemple sur une tablette.
C'est ça, numériquement, on peut.
Ce qui fait que ça a quand même bien réduit le rôle des encreurs traditionnels qui ont dû un peu s'adapter, quoi. Hein.
Et vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous arrivez à vous faire la différence entre un ancrage manuel et un ancrage numérique?
Aujourd'hui, assez, mais je me suis fait avoir plusieurs fois, oui. C'est clair qu'on a des auteurs qui maîtrisent l'outil digital à la perfection, et c'est assez compliqué et assez bluffant.
Est-ce que c'est comparable à tout ce qu'on peut entendre ensuite dans la musique avec le travail plutôt analogique et le travail plutôt numérique, j'imagine?
C'est similaire. Ouais.
C'est similaire.
Et ce qui va être intéressant justement sur ce sujet-là, c'est que Klaus Johnson, il a 72 ans, mais il veut être vraiment, vraiment actuel. Donc aujourd'hui, il ancre avec une partie numérique. Ça veut dire qu'on peut voir l'évolution de son travail entre ce qu'il faisait manuellement et ce qu'il fait au niveau numérique. Et l'intérêt de certaines planches qui vont être là, exposés la semaine prochaine, c'est qu'on a l'original fait à l'encre de Chine, et on pourra comparer avec la version publiée, qui a eu des retouches numériques.
Ça me fait penser un peu au vinyle et puis au CD, et voilà, il y a aussi une comparaison possible.
Sur la mine, on n'en a pas encore assez parlé, hein, du blog, je l'adresse sous les yeux, le blog Phil Cordier, tout accroché, PHILCORDIER. blogspot.com. Sur cette mine, on trouve une peut-être, Francis, serait-ce une boulette d'ancrage iPad, enfin le Batman dans The Grave, il lui manque le visage. Je suis tombé sur cette entrée, je ne sais pas combien d'entrées il peut y avoir dans votre blog, et sur l'une de ces entrées, vous indiquez qu'il y a dû avoir une erreur. Est-ce que c'est Hitch qui... c'est Brian, c'est ça?
C'est Brian
Est-ce
Hitch,
que c'est lui qui, au dessin, aurait oublié le masque, ouais, de
il
Batman.
Il a oublié le visage, ouais. Ouais.
Et le résultat, on aperçoit en fond un mur à post-it. On est dans le commissariat du commissaire Gordon, et on aperçoit donc, je crois, les...
Il manque la tête.
Et il manque la bouche, le nez. Donc ça, c'est une erreur plutôt du dessinateur ou de l'encreur?
C'est plutôt de l'encreur.
C'est l'encreur qui a dû passer outre. Et un ancrage donc justement informatique ou non, papa?
Alors je l'ai plus en tête, celui-là. Je sais plus si c'était lui qui le faisait ou pas. Il me semble que c'était lui. Mais il y a une telle production, un tel rythme qu'une page chasse l'autre. Donc forcément, il y a des oublis.
Ça, c'est intéressant. Il faut donc venir, auditeurs, auditrices. Effectivement, cette production américaine, mais c'est gargantuesque. Les X-Men après Hickman sont encore relancés. Mais c'est pas possible. Ça continue, les épisodes continuent à sortir. C'est absolument sans fin. Donc, temps de pause. Le vendredi 22 novembre, le samedi 23, le dimanche 24, un temps de pause avec une légende, Klaus Janson, qui vient fêter, en quelque sorte, un anniversaire, un peu 50 ans de comics. Galerie 41, sur le 41 de la rue Saint-Georges. Peut-être qu'on pourrait s'accorder une petite pause musicale pour introduire la chronique littéraire de Francis qui arrive. On va écouter le titre de Deep Purple, Oh Well, Oh Bien. Je crois qu'il est un petit peu long, donc on le coupera correctement pour à 50 commencer la chronique. Fin d'émission avec quelques annonces, j'en ai vraiment très peu, et puis Phil, vous aurez encore quelques indications à nous donner, je pense, sur le numéro, auditeur auditrice, un numéro sortira qui sera accessible, les commandes, vous en avez parlé aussi, l'artiste aussi, on va trouver encore des choses à vous donner. Il n'y a pas de numéro de téléphone, hein. Si vous souhaitez vous y rendre dessus, on aurait pu parler des réseaux, il y a un Instagram de Black White, vous en avez un aussi, je crois, non, je ne sais plus, c'est
auditeur. Il y a le site internet des éditions Black and White où toutes les infos sont données.
On trouve tout ça, on vous renseignera. Pour l'instant, nous écoutons Deep Purple avec le titre Oh Well.
The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. He said, stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you.
Ooh. Ça bloque, hein, finalement, ça bloque, mais ça va marcher.
n'ai pas porté plainte, non. Pour moi, le viol, c'est un type dans un parking qui me colle un couteau sous la gorge. Donc je n'ai pas réussi à me dire « tu viens de te faire violer ». J'ai refoulé. Je me suis dit que j'étais bien conne et que je le méritais. Aïe. Désolé, Christophe. Alors là, le gars, il vient pas depuis 3 mois. Il sèche lâchement les mercredis après-midi. Et pour une fois qu'il revient parler d'un livre, bim, on oublie l'humour, on oublie la légèreté, on va direct dans le lourd. Le dur, l'indicible. Désolé. Je continue quand même. Surtout qu'on parle de super-héros aujourd'hui. Eh bien, là, nous allons parler de super-héroïne. Eh bien, me voici de retour avec un auteur que les fidèles auditeurs et auditrices de cette chronique presque littéraire et presque hebdomadaire par le passé, puis mensuelle, puis devenue trimestrielle, puis semestre, puis, enfin bref, connaissent déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mathieu Palin à travers son dernier récit « Les hommes manquent de courage » publié chez l'Iconoclaste. Chronique presque littéraire, hashtag 41. Je n'ai pas porté plainte, non. Pour moi, le viol, c'était un type dans un parking qui me colle un couteau sous la gorge. Donc je n'ai pas réussi à me dire « tu viens de te faire violer ». J'ai refoulé, je me suis dit que j'étais bien conne, que je le méritais. Vous l'aurez donc bien compris, Mathieu Palin raconte l'horreur, l'indicible à travers le récit de Jessie, une quarantenaire, maman d'un garçon de 15 ans, qui, disparu depuis 3 jours, l'appelle un soir pour lui dire qu'il faut que sa mère vienne vite le chercher, tout de suite. Son fils vient de commettre l'irréparable, il vient de violer sa petite amie. Comment est-ce possible? Comment Jessie, elle-même, victime d'un viol, étant plus jeune, n'a-t-elle pas réussi à transmettre ce minimum éducatif essentiel? Elle ne m'a pas encouragé à porter plainte. Dans nos têtes, à l'époque, ce n'était pas une option. J'avais été violée pour ma première fois. Pour ma première fois. C'était terrible, mais il fallait le prendre comme un accident, le genre de choses qui arrivent. J'allais m'en remettre en serrant les dents. Mathieu Palin raconte les conséquences psychologiques désastreuses d'un viol, le refoulement, la perte des repères basiques, la perte de confiance et la vie qui se déroule autrement. J'étais pourtant bien parti, bac S, mention très bien, félicitations du jury, admise dans la meilleure prépa de France. Il n'y a que dans les films qu'une fille avec un tel pédigré réussit à tout foirer. Mathieu Palin encore raconte comment Jessie se jette à corps perdu dans une vie décalée, une vie en marge, une vie pleine de rencontres et pleine de prises de risques, en fin de soirée à travers des rencontres d'un soir, puis le basculement vers d'autres pratiques, encore bien plus à la marge. Un viol non raconté, non dit, avec des conséquences terribles en vieillissant. Avec cette idée en filigrane, que transmettons-nous à nos enfants, à notre dépens? Il parle des responsabilités d'une mère et d'un père. C'est un crime de violer quelqu'un, et pour un crime, on encourt 30 ans de prison. Et voilà à quoi pense cette mère, affolée, perdue, exit son propre viol, exit sa vie, comment reprendre confiance, comment se réapproprier son destin, ses choix. Toujours ce foutu rêve, un couple, ça se rencontre, ça se marie, ça fait des enfants et ça reste ensemble. J'ai mis du temps à accepter que je m'étais planté, que j'étais mise de mon plein gré dans une situation merdique avec un homme que j'allais finir par détester, voire pire, mépriser. Encore une fois, Mathieu Palin parle du déterminisme, et pas le pré-déterminisme social ou culturel de Bourdieu, mais le déterminisme psychologique. Comme il l'avait déjà fait dans son précédent roman, Ne t'arrête pas de courir. Bon, promis, ma prochaine chronique, je la ferai sur le village dans les nuages ou sur les bienfaits d'une histoire d'amour sans accroc. Enfin bref, un truc un peu plus léger. Les hommes manquent de courage. Mathieu Palin, publié chez l'Iconoclaste.
Eh bien, effectivement, Francis, c'est un retour un petit peu rude. Cela rend néanmoins hilar, Phil, c'est un peu terrible. Mais bon, je t'en sais gré, puis merci pour l'autodérision. Effectivement, l'émission, ta chronique était devenue presque limite annuelle, hein, c'est ça. Mais bon. Fin d'émission, auditeur auditrice, 14h55. Quelques annonces, vous allez voir très peu, parce que l'annonce principale, c'est... du vendredi 22 novembre au dimanche 24. Rendez-vous donc à la galerie 41 sur la rue Saint-Georges dans le 5e arrondissement. Donc quelques annonces, alors un peu de musique. L'Orchestre National de Lyon joue de la musique avec des images projetées. C'est un ciné-concert, c'est le ciné-concert Jurassic Park qui commence, je crois, même ce soir, me semble-t-il. Je vérifie sur mes informations. Jeudi 14, c'est en fait demain, 20h. Vendredi 15 à 20h aussi. Samedi 16 novembre à 18h. Et dimanche 17 à 16h. Jurassic Park, le film de Spielberg avec la bande originale de Williams. Ce n'est pas Scott Williams, qui est également un encreur. C'est John Williams. L'Orchestre Saint-Saul de Lyon sera sous la direction de Ernst Van Til. Et c'est le concert de cette fin de semaine à l'Opéra. Il n'y a pas d'opéra. Il y a en fait les Tindersticks qui seront sur scène.
Génial.
J'ai ma place. Tu as la tienne aussi. J'ai mon billet pour aller écouter Stuart Staples. C'est dimanche 17 novembre à 20h. Et puis le théâtre Les Fausses Confidences se termine au Célestin de Marivaux, mise en scène d'Alain Françon. J'y suis allé la semaine dernière. J'ai pu discuter avec Alain Françon. Auditeur, auditrice, c'est bien discuter avec les gens. Et Klaus Johnson sera certainement très bien aussi. Discuter avec Alain Françon, c'est très bien. C'est une mise en scène très spéciale, mais absolument magnifique. Les décors sont formidables. Les comédiens sur scène sont magnifiques. Georgia Scalier notamment est prodigieuse. Les Fausses Confidences, il faut aller le voir au Célestin. Ça se termine ce samedi 16 novembre. Donc il reste encore ce soir, demain et ainsi que vendredi. Et puis samedi aussi. Et puis c'est tout. Quelques expositions ont lieu à Confluence. Au Musée des Confluences a commencé Le Temps d'un Rêve. Au Musée des Beaux-Arts, c'est différents dessins qui sont exposés du XVIIe siècle, 1600 je crois jusqu'à nos jours. L'exposition Zurbaran arrive là dans un petit mois, le 5 décembre. Et puis Luc Dunhomme également, une exposition se tient sur l'Empire, un empire et des peuples. Et j'évoque d'autant plus cette exposition que ce sera le prochain invité, disons. Le prochain invité du mercredi 5 février 2025. Il y aura un petit peu de temps qui va se passer d'ici là, mais les émissions sont presque toutes prévues.
Ce sera ma prochaine chronique du coup.
Bon, très bien. On a presque tous les invités. La semaine prochaine, Théâtre de Guignol. La semaine suivante, Projet Lumière. La semaine d'après, Philippe Mangenoux pour parler du duo Juan. La semaine, non, c'est vrai qu'il y a un peu relâche peut-être le 11 décembre, mais le 18, Giovanni Radivo, musicien premier violon à l'Orchestre National de Lyon, puis ensuite relâche. 4 janvier, nous reprenons avec la compagnie Maison Vague. Et c'est pas le 4, c'est un peu plus tard, c'est le 8 janvier. Et le 15, a priori, l'ensemble de Céladon. 22, c'est pas encore tout à fait prévu. Le 29, ce sera le chef d'orchestre Laurent Zuffray, chef d'orchestre assistant à l'ONL. Et le 5 février, Luc Dunhomme pour cette exposition Un Empire des Peuples.
Une petite annonce aussi, demain soir à La Rayonne, il y a Emma Peters, une chanteuse que j'aime beaucoup, qui jouera à La Rayonne. C'est une salle qui existe depuis 2 ans maintenant, une petite salle de 1000 places où Emma pourra jouer Emma Peters, et en première partie il y aura Hugo Del Rosso, un artiste que j'affectionne tout particulièrement, et dans 15 jours au Marché Gare, salle que vous savez très bien qu'on aime bien dans cette émission, plusieurs concerts à voir dans la semaine, dont un duo qui s'appelle Folloy qui fait de la chanson électro-punk à aller voir, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter une petite oreille et puis des yeux au Marché Gare. Voilà.
Deux petites minutes pour terminer cette émission. Je vous l'avais dit, Phil, c'est vous qui avez le mot de la fin, donc vous êtes venu. On peut peut-être plutôt le mettre, voilà, au passé composé. Vous êtes venu nous parler de l'exposition de Klaus Johnson, 50 ans de comics à la Galerie 41 dans le quartier Saint-Georges. Attention, c'est la semaine prochaine, vendredi 22 jusqu'au dimanche 24. On a beaucoup évoqué de choses, l'encreur, ces planches qui seront présentes, un numéro de Black and White qui sortira à l'occasion. Mais il restait encore quelques informations sur les réseaux, on peut suivre, il y a une page Facebook je crois, il y a différentes choses, Instagram aussi, mais Phil, oui.
Alors revenir aux comics après une telle chronique, c'est une expérience très cathartique, super, merci. Mathieu Palin, il y a deux, trois éléments importants, en tout cas un qui me semble important, c'est que ok, il y aura une petite centaine d'originaux exposés, mais pas n'importe lesquels. Ça va être représentatif d'un peu tout ce qu'il a pu faire, dessiner, ancrer et autres.
Et j'avais oublié l'épisode.
Et il y a quand même un épisode très particulier qui, en fait, nous tenait à cœur. C'est que autant l'éditeur Raphaël Vaquer que moi, on était un peu traumatisés par un numéro très très spécial de Daredevil, le 192, qui était le premier dessiné, ancré, colorisé par Klaus après le départ de Frank Miller. Et on l'a toujours adoré, ce numéro. Et quand on est passé chez lui, on lui a demandé s'il avait des planches qu'on pourrait exposer. Et il nous a dit, je n'ai rien vendu, j'ai tout. Donc il nous a donné cet épisode en entier. Et donc à la galerie, il sera intégralement exposé. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir lire un comics entier en planche originale.
Avec les bulles aussi, avec les dialogues.
Alors oui, et avec surtout des étapes. Par exemple, avant, il n'y avait pas Internet, quoi, donc il n'y avait pas de retouches, il n'y avait pas Photoshop, donc on a des filtres, des calques.
On voit du blanc, donc, c'est ça, du correcteur.
On a même des calques qui sont mis par-dessus, puisque comme il était également coloriste, il savait comment il allait approcher la couleur. Ça veut dire que pour 20 planches, il y a 23 ou 24 originaux qui seront exposés. Donc il y a vraiment l'ensemble de l'épisode.
Donc pour les néophytes comme moi, c'est super intéressant de voir ça.
Je pense, ouais. Et surtout qu'on va faire en sorte que le comics soit là, physiquement, que les gens puissent le comparer, en fait. Qu'ils puissent le prendre sur un chevalet, regarder, comparer l'original, la version publiée. C'est forcément intéressant, même pour quelqu'un qui est pas à fond dans le domaine, quoi.
Je l'ai sous les yeux sur la Marvel Database, Marvel Fandom. Release date, November 23, 1982. Cover date, je sais pas pourquoi la date de la... Ah oui, bah la date sur la couverture est toujours différente, hein. C'est mars 83 qui est annoncé. Le scénariste, Alain Brennert, j'ai. Le penciler, Klaus Jansson. Inker, Klaus Jansson. Coloriste, Klaus Jansson. Lettreur, Joe Rosen. Et l'éditeur, à l'époque, qui était-ce ? Forcément.
L'éditeur Marvel ou
oui, l'éditeur Marvel de cette époque.
Oh, on devait être sur soit Ralph Macchio, soit Denis O'Neill.
Bravo, Denis O'Neill qui est effectivement voilà les caractères. Il y a Matt Murdock qui est présent. Il y a aussi Ben Urich. Oh bah forcément Ben Urich.
C'est un épisode justement sur Ben Urich. C'est ça qui est intéressant.
Alors c'est très bien ça. C'est le journaliste qui est même utilisé par Bendis dans son Daredevil des années 2000, je crois, c'est ça, 2010 avec ouais, Alex Maleev. Que vous appréciez à moitié ce beau gars.
C'est un bon dessinateur, ouais, c'est pas mon préféré en photo montage, mais il y a un petit peu trop de photos.
Ça y est, ils sont repartis en chien.
On peut repartir sur 3 heures entre geeks.
Eh bien, les diluitions de 5 minutes. Mais écoutez, Phil, moi j'ai votre numéro, donc je vous recontacterai volontiers. À coup de moto, l'un n'est pas très très loin, vous me disiez.
Oh, c'est à une demi-heure, trois quarts.
Bon, ben on trouvera. Il y avait des dates libres, il y avait le 11 décembre, je crois, et le 22 janvier. On trouvera ça éventuellement. Auditeurs, auditrices, restez bien à l'écoute des programmes. Donc nous avons évoqué cette exposition à venir. 22 novembre, vendredi jusqu'au 24, le dimanche, à la Galerie 41, quartier Saint-Georges, Klaus Jansson, 50 ans de comics. On va se quitter avec un titre de Joe Jackson. C'est pour l'euphonie, c'est ça ? Pour l'homophonie que vous avez souhaité ce titre-là ? Pourquoi pas ? Oui, Joe Jackson avec le titre qui est One More Time, c'est ça, je crois ? Une fois de plus.
C'est ça.
Ah bon, cela, je vous indique les émissions à venir. Ça n'a pas changé, hein, Francis. Il y a bien le Blues et Canu à 16h, Mayday à 18h, Canu Info à 19h, 20h, Idée Noire, une émission de l'UCL, 21h. La bande son de révolte a priori, parce qu'à l'Est l'Eden est un peu en pause depuis quelques temps. En revanche, 22h à minuit, aura bien le Bully Mix, émission Funkystery. Tu nous annonçais un concert électro-funk, punk ?
Punk.
Électro-punk. Français. Marché Gare, la semaine prochaine, tu as dit,
c'est
ça ?
Ouais, c'est ça, le 27 novembre.
Auditeur, auditrice, je mettrai tout ça sur le blog. Je vous redonne l'adresse du blog, hein, je la donne pas assez. Blog au pluriel, hein, blogs.radiocanu.org/spectaculaire. Vous avez accès aux 344 émissions qui ont eu lieu.
Il y a 41 chroniques littéraires.
Et je vais mettre en ligne celle d'aujourd'hui. Auditeur, auditrice, portez-vous bien. Merci beaucoup, Phil.
Merci à vous.
On se quitte avec One More Time et on se dit à bientôt. Alors. Et nous, la semaine prochaine, ce sera le théâtre de Le Guignol, qui est au Palais Bondy avec un Mama Swing à arriver au mois de décembre prochain. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien.
Salut.
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 Shout it to the skies.